Matthieu 11, j'aimerais vous parler ce matin d'un... J'avais pas prévu d'ailleurs de prêcher ça, mais parce que les choses sont comme ça. Ma prédication est restée à la maison, non pas parce que je l'ai oublié, mais parce que les choses se font comme ça. Et j'aimerais ce matin vous parler de quelqu'un qui a vécu des choses extraordinaires, miraculeuses. Un homme qui était de la trempe des prophètes, et bien plus encore, puisqu'il a été la charnière dans l'histoire de la Bible entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, à moins que vous ayez déjà regardé de qui, quel est le personnage dont on va parler ce matin, sinon, vous savez, parce que vous l'avez lu, c'est pas la peine de le dire, mais ceux qui n'auraient pas encore ouvert leur Bible ou qui l'auraient oublié, est-ce que vous savez de qui on veut parler ce matin? Ce n'est pas question pour un champion, hein, vous pouvez parler. Hein. Qui a dit Malachi? C'est bien Paul, mais ce n'est pas ça. Il y a eu la réponse, mais tu avais lu déjà, non? Alors c'est Jean-Baptiste. Qui a dit Jean-Baptiste? Voilà, vous aurez un bon point. Hein? Jean-Baptiste était un homme tout à fait particulier par sa vie. Je rappelle que Jean-Baptiste est né d'un miracle, puisque sa mère et son père ne pouvant pas avoir d'enfant, Dieu a béni. Et son père, qui a su que Dieu interviendrait, il a manqué de foi. Et Dieu a fait en sorte que le père ne puisse plus parler jusqu'au jour où il y ait le miracle qui se manifeste. Donc on voit quand même que ça nous parle de faille, ça nous parle de faiblesse, de manque de foi, et pourtant Dieu est intervenu. Alors on s'aperçoit ici que Jean-Baptiste est né d'un miracle, même si son père a eu un temps de doute. Je rappelle que Jean-Baptiste a eu une vie particulière, il était le cousin de Jésus, et Jean-Baptiste a été mis à part avant même sa naissance. La Bible dit que lorsque tu n'étais qu'une masse informe, je te connaissais, et Dieu a voulu que Jean-Baptiste soit un homme qui soit mis à part pour Dieu. C'était un homme qui avait accepté de mourir à lui-même. Un homme qui avait accepté d'obéir à Dieu. Un homme qui était sensible à la voix de Dieu. Un homme qui était plein de courage, de détermination face aux religieux qui venaient écouter son enseignement. Un homme qui était sensible puisqu'il avait eu la révélation que le Messie viendrait. Il pouvait dire « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers ». Donc prophétiquement, il annonçait la venue du Messie. Et je disais que c'était un homme qui avait accepté de mourir à lui-même, il ne cherchait pas le confort, il vivait dans le désert, il se nourrissait de mets succulents, de sauterelles et de miel sauvage. Alors je ne dis pas que maintenant, pour être consacré à Dieu, il vous faut manger du miel et que du miel et des sauterelles sauvages, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'était la région qui voulait ça, l'époque qui voulait ça, hein, et puis aussi, voilà. Et au niveau vestimentaire, était vêtu d'une peau de bête avec une ceinture de cuir. Alors quelques-uns pourraient dire « Ah, il avait un manteau de fourrure ». Non, mais c'était vraiment le minimum qu'il pouvait avoir pour sa vie. Et des foules entières venaient écouter l'enseignement de Jean-Baptiste, à un point qu'il avait même ses propres disciples. Et voilà que lorsque Jésus va arriver, il pourra dire « Voici l'agneau de Dieu ». Cet homme a accepté d'aller jusqu'au bout pour son engagement à l'égard de Dieu. Cet homme n'avait pas peur de dire à Hérode, celle-ci n'est pas ta femme. Il avait pris une femme qui n'était pas la sienne, enfin c'était une histoire de famille, pas possible. Et à un moment donné, Hérode a vu sa belle-fille en train de danser. Il a été charmé, la séduction. Il a dit, demande-moi ce que tu veux, même la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Et la mère lui a fait dire, demande la tête de Jean-Baptiste. Le bourreau est entré et il lui a tranché la tête. Mais avant de lui trancher la tête, et celle-ci placée sur un plateau, Jean-Baptiste a vécu un moment très difficile dans sa vie spirituelle. Il a eu une période de creux très douloureuse. Et nous allons voir ce passage. Dans Matthieu 11, lorsque Jésus, verset 1er, eut achevé de donner ses instructions à ses disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Verset 2, Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Comme ils s'en allaient, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? Mais qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu d'habits précieux ? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face » pour préparer ton chemin devant toi. Amen. Jean-Baptiste, après avoir vécu toutes ces choses, ces miracles, sachant qu'il était le fils du miracle, ayant entendu parler de Dieu, vivant Dieu, pas simplement parler de Dieu, mais le vivre, intensément, au point d'avoir accepté de payer le prix. Aujourd'hui, nous dirions, Jean-Baptiste avait vécu après la croix, nous aurions pu dire il avait accepté de porter sa croix, de mourir à lui-même, d'accepter de tout donner pour la cause de Christ. Le Jean-Baptiste, c'est le prophète de l'Ancien et du Nouveau Testament, et Paul, étant l'apôtre du Nouveau Testament, mais quand on voit ces deux hommes en parallèle, nous voyons bien que ces deux hommes, ce sont des hommes qui sont engagés. Ils sont bien parmi leurs contemporains, mais quand même, ils sont mis à part. Ils ont accepté de vivre à part, d'accepter de vivre parmi les gens, mais dans leur état d'esprit, dans leur cœur, de vivre à part. Et mais voilà que Jean-Baptiste va vivre un moment douloureux. Pourquoi je dis douloureux ? Parce que c'est en relation avec sa vie spirituelle. Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? Une crise de foi. Voilà ce que Jean-Baptiste était en train de vivre. Une véritable crise de foi. Un homme comme lui qui arrivait même à se poser la question, mais à vrai dire, et si c'était pas toi le Christ ? C'est ça que ça veut dire. Et si c'était pas toi le Messie ? Devons-nous en attendre un autre ? Est-ce vraiment toi ou devons-nous en attendre un autre ? Où est-ce que vous en êtes avec votre foi ce matin ? Peut-être que vous dites, ça fait des années et des années que je connais les évangiles. Voilà, hier j'ai croisé quelqu'un dans la rue et j'avais un livre avec moi qui n'avait rien de biblique puisque c'est un bouquin d'histoire. Bon, moi j'aime bien l'histoire, mais la guerre du Pacifique, ça vous parle, hein? 43-45, ça vous fait, c'est très spirituel, hein, vous comprenez, non? Bon. Et puis cette personne, je lui dis, tiens, tu vois, je suis en train de bouquiner, je sors de la librairie, là, je n'ai pas trouvé un bouquin qui me... On me dit, moi, je lis les quatre évangiles. Bon, alors je me... Bon, j'ai compris que là, je parlais à quelqu'un qui... Voilà. Mais on peut lire les quatre évangiles, moi aussi, hein, je lis la Bible encore. Hein. Voilà. Mais on peut connaître la parole. On peut avoir fait des expériences extraordinaires avec Dieu. Et pour autant, avoir un moment de désert les plus absolus, les plus profonds, comme jamais on a pu vivre. Et se dire, je lis les évangiles, je connais la parole, ça fait des années que je viens à l'église. Et vous savez que nous sommes plus instruits que les gens de l'époque de Jésus. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que nous avons réunion sur réunion, des Bibles de toutes les versions que vous voulez. Faut-il encore faire attention aux versions ? Et puis, des livres de théologie, des livres pour vous instruire sur tel livre, sur tel autre livre. Mais nous sommes, excusez l'expression, gavés de prédications. Des gens vont sur Internet et ils ont des prédications à l'appel. Là aussi, il faut faire encore attention aux prédications. Mais des prédications, nous en avons plein. Nous vivons des choses extraordinaires, bien sûr. Et pour autant, se dire, mais est-ce que le Christ, est-ce que c'est bien là la vérité ? Alors quelqu'un pourrait dire quand même, frère, vous exagérez. Non. Vous savez qu'on peut avoir une crise de foi. Si Jean-Baptiste a eu une crise de foi comme il a eu, nous ne sommes pas plus grands que Jean-Baptiste. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? Jésus, ce qui est admirable chez lui, c'est que au moment où le prophète, et je rappelle que ce prophète avait quelque chose de particulier au-delà qu'il soit prophète, qu'il a été prophète, c'était quand même le prophète de la charnière de l'Ancien et du Nouveau Testament. Un homme qui avait vécu, qui avait prophétisé la venue du Christ et qui a vu la réalisation de ses prophéties en vue. Il les a vues. Il a touché le Christ. Il lui a parlé. Il l'a même baptisé. Il a été témoin de ce qu'il a dit. Il l'a vécu. Et pour autant, Jésus ne dira jamais... ne fera jamais un reproche à Jean-Baptiste en disant « Comment se fait-il que tu doutes ? Toi aussi, tu arrives à chuter dans le doute, tu me remets en question. » En aucun moment, Jésus va taper sur la tête de Jean-Baptiste. Mais Jésus prendra des exemples. Il va dire « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez » et ce que vous voyez, vous savez, je vais vous dire, moi, comme vous, je l'imagine, ce dont on a besoin, ce n'est pas d'avoir des gens qui font ceci, qui font cela, qui disent ceci, qui disent cela, au nom de Dieu. Moi, ce dont j'ai besoin, je me moque complètement quel est le prédicateur qui va prêcher. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. S'il a la moustache, s'il n'a pas la moustache, s'il a les cheveux courts ou pas, s'il a un costume ou pas, je m'en moque. Ce n'est pas ça mon problème. Moi, ce que je veux voir et entendre, c'est ce que Dieu a mis sur son cœur. C'est ça qui est important. Vous comme moi, enfin moi, oui, mais je ne peux pas me faire votre porte-parole, mais j'imagine qu'on est dans la même pensée, ce dont on a envie d'entendre. Ce n'est pas une certaine philosophie, ce qu'un tel va penser de la Bible. Moi, je pense que je m'en moque. Mais que me dit la Bible ? Que me dit Jésus ? C'est ça qui est important. Quand on arrivera devant le ciel, ce n'est pas... de dire au Seigneur, ah ben, tel m'avait dit que c'était comme ci, l'autre m'a dit que c'était comme ça. Non. Vous savez, des théologiens et des philosophies, différentes pensées, tendances de pensée, vous en avez à l'appel. Mais que me dit Jésus ? Que me dit Jésus ? Même ma culture ne doit pas rentrer en ligne de compte. Bien souvent, notre culture, on la met en avant. Je suis chrétien, mais j'ai ma culture. Mais peu importe ta culture, que je sois du Pérou, que je sois de l'Afrique, que je sois de l'Asie, ou un Américain ou un Européen, peu importe. L'Évangile, il n'y a pas un Évangile pour un Européen, un Évangile pour les Africains, un Évangile pour les Asiatiques, etc. etc. L'Évangile, il est universel. Alors peu importe ma culture, ça ne veut pas dire qu'il faut renier sa culture, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a... la culture ne doit pas supplanter l'Évangile. Et Jésus va dire, allez dire, rapporter à Jean ce que vous entendez. Mais vous entendez de la part de qui ? Ben de Jésus. des gens qui étaient émerveillés de voir eh bien, l'intervention de Dieu dans leur vie, des gens qui rendaient témoignage. Imaginez des boiteux, des estropiés, des aveugles, et Jésus donne une liste de gens qui ont vécu des choses qui étaient difficiles à vivre et à porter, et ils louent Dieu. Ils remercient le Seigneur. Et Jésus dit à Jean-Baptiste, « Allez rapporter ce que vous entendez, mais aussi ce que vous voyez, les miracles qui ont eu lieu. » Alors Jésus donne une liste. Peut-être que ce matin, eh bien, Jésus dit, « Les aveugles voient. » Et peut-être que ce matin, nous avons un aveugle parmi nous. Oh, frère, ça se verrait quand même, non? Ce n'est pas un jeu de mots. Hein? Mais je crois que parfois, on peut être aveugle. Aveuglé. Et on ne voit plus du tout l'œuvre de Dieu dans sa vie. On peut, encore une fois, avoir fait des expériences extraordinaires avec Dieu, et pour autant, ne plus voir l'œuvre de Dieu dans sa propre vie. Ne plus voir, eh bien, l'œuvre de Dieu dans la vie au quotidien. Et on rentre dans un système, dans des pratiques qui deviennent purement religieuses. Seigneur, on te loue pour ce repas. Amen. Ça, c'est fait. Allez, hop, on peut manger. Je vais au culte. Bon, bah, comme ça, ça, c'est fait. Et on devient religieux. Et on n'a plus son intimité avec Dieu parce qu'on ne voit plus Dieu agir. Et pourquoi on ne voit plus Dieu agir? Parce qu'on ne prend pas forcément le temps de le laisser agir. Et parfois, on est obligé, que ça nous plaise ou pas, eh bien, de se doter de paires de lunettes. Quand j'ai passé la quarantaine, je commençais à prendre les livres, j'étais comme ça. J'ai vu qu'il y avait un problème. Alors l'ophtalmo m'a dit, en quelques mots, il m'a dit, vous avez quel âge? En gros, il m'a dit, c'est normal. Ah ben, ça fait plaisir. En fin de compte, gentiment, ça veut dire, ben, vous vieillissez, mon brave. Et puis ça va pas là sans argent. Enfin, il m'a pas dit ça comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire, quoi. Hein? D'ailleurs, je suis pas le seul à porter des lunettes. Je vois ça. Heureux ceux qui n'en portent pas, mais qui trichent peut-être qu'ils portent des lentilles. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Et vous savez qu'on peut voir les choses de près? Alors, j'ai plus les termes, hein, parce que le myope, ceci, cela, enfin, vous allez comprendre. Hein. On peut voir les choses de près, mais on les voit plus de loin. On les voit de loin, mais on les voit pas de près. Des fois, on a du strabisme. On a les yeux qui... On regarde à droite, on regarde à gauche. On manque de stabilité. Des fois, on a les yeux secs. Alors, ils se vendent des larmes artificielles. On est devenu aveugle. Jésus va dire, les aveugles voient. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est de savoir que Dieu veut nous rendre la vue. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est devenu aveugle? Allez, le train-train, l'habitude. On peut être devenu aveugle à cause de la tristesse. Les deux disciples d'Emmaüs, Jésus était en train de marcher à côté d'eux. Et ces deux hommes, ils étaient en train de parler de qui? De Jésus. C'est quand même fort, hein? Ils parlent de Jésus, Jésus est à côté d'eux, ils ne les voient pas. Et qu'est-ce qui les a aveuglés? Parce qu'ils étaient aveuglés. Ben, c'est la tristesse. L'aveuglement ne fait pas forcément suite à un péché. Vous savez, dans l'Église, dans la vie chrétienne, on parle souvent du spirituel, du charnel, du psyché. Ça, on parle un peu moins, mais enfin, il est important, c'est la psychologie. Hein? Même si des fois, ça, le psyché, ben, ça en fait partie de la psychologie. Hein? Voilà. Mais on parle souvent du péché, mais on peut ne pas être bien dans sa peau, pas forcément parce qu'on a péché. On peut être victime des choses dont on n'a jamais été guéri. On peut être victime, eh bien, de choses qui, voilà, qui sont difficiles à vivre. Et pas forcément à cause du péché. Même s'il y a le péché aussi parfois qui fait que nous sommes devenus aveugles. D'accord? Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a rendu la vue à ses aveugles. Et rendre la vue à un aveugle, c'est impossible, non? On est bien d'accord? Il n'y a que le miracle de Dieu. Et spirituellement, il n'y a que le miracle de Dieu pour rendre la vue à ceux qui sont devenus aveugles. Ensuite, il est dit comme ça, les boiteux marchent. On est constitué de manière à ce que nous puissions marcher. Lorsqu'un petit bébé vient au monde, la sage-femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met le petit, elle prend le petit sous les aisselles, et le petit debout, il est comme ça avec ses petites jambes. Là. C'est l'instinct motricité hein, qui monte. Si le petit, il a cet instinct. Alors ma femme a été dans un service là en maternité. Elle a vu un petit bébé avec les jambes droites comme ça, comme un gymnaste droit. Comment ça se fait que le petit ait les jambes droites comme ça? C'est parce que quand il est né, il était en siège. Ah non, le petit, c'est imprimé comme ça dans sa tête. Il était en siège, donc voilà. Bon, petit à petit, ça va descendre. Hein, parce qu'il va avoir des abdos à rendre jaloux son père après. Hein. Voilà. Mais pour dire que, vous voyez? Et parfois, eh bien, dans notre vie, on peut être boiteux. On pouvait bien marcher avec Dieu, et à un moment donné, il y a une situation dans notre vie qui a fait qu'on est devenu boiteux. Vous savez, lorsque vous tombez, ce n'est pas forcément les grosses blessures qui font le plus de mal. Des fois, des tout petits bobos peuvent faire du mal. Et on boite. Pas parce qu'on veut se faire remarquer, parce qu'on boite parce qu'il y a une douleur. Et parfois même, les blessures ne se voient pas, elles sont internes. Qu'est-ce qui a pu nous faire boiter? Quelqu'un qui nous a regardé de travers? Est-ce que vous restez indifférent quand quelqu'un vous regarde de travers? Qu'est-ce que tu as regardé comme ça, toi, Muriel? Hein? Mais si j'étais sérieux, bien sûr, c'est un exemple, vous avez compris. Je suis convaincu que Muriel sortirait du culte en étant remué. Je dirais, mais pourquoi le pasteur m'a regardé comme ça? Pourquoi il m'a parlé comme ça? On ne peut pas rester indifférent. Et parfois, on est devenu des boiteux. Ou à cause du péché aussi, parce qu'on a fait des impairs. Parce qu'on a fait des compromis. Mais là aussi, regardez ce qui est écrit. Les aveugles voient et les boiteux marchent. Et là aussi, c'est l'ordre du miracle. Quelqu'un qui rentre à l'église qui est boiteux, un boiteux de la vie qui a pris des coups dans la vie, au message de l'Évangile, Jésus guérit encore aujourd'hui même les boiteux du cœur, les boiteux de l'âme. Et Jésus peut rendre la vie à ceux qui sont, enfin, rendre une marche. Heureux ceux qui connaissent le Seigneur. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit les paroles. Et puis, il y a d'autres exemples. Les lépreux sont purifiés. Vous savez tout ce que représente la lèpre dans la Bible. La lèpre représente le péché. Combien de chrétiens aujourd'hui vivent un esclavage, vivent avec un péché dans leur vie, vivent avec une addiction, vivent avec l'addiction de la pornographie. Vous savez, c'est facile, hein? Vous allez sur Internet, vous mettez un mot bizarre et puis personne ne le sait. Derrière votre petit écran. Combien de gens peuvent tomber dans l'addiction eh bien, de l'alcool? Oh frère, je bois pas beaucoup, je suis jamais sous. Mais non, mais on peut ne pas être sous, mais tous les jours, boire un bon coup ou boire la bouteille. Hein. Et on n'est jamais sous. Pourquoi? Parce qu'on est habitué. Combien de gens sont addicts eh bien, d'autres choses? Du tabac, de l'addiction de la peur. Tiens, c'est la première fois qu'on l'entend, celle-là. L'addiction de la peur. Dès que vous parlez un peu trop fort, il y a forcément un problème. Il y a eu un traumatisme. Combien de gens sont dans l'addiction et sont devenus des lépreux? Alors, ils viennent à l'église, mais voilà, ils viennent par habitude. Ou viennent simplement parce que, eh bien, ils connaissent Dieu, ils aiment Dieu à leur manière. Mais ils sentent qu'ils sont comme pris. Ils viennent, mais ils ne sont pas libres. Et pourtant, Jésus, eh bien, dit ici, les lépreux sont purifiés. Rappelons-nous que nous sommes lavés, purifiés, sanctifiés par le sang de Jésus. Tiens donc, tiens, c'est un peu. C'est dans Ésaïe. Regardez. Dans Ésaïe 44, verset 21, il est écrit... Alors, vous allez mettre votre prénom, d'accord? Moi, je vais mettre le mien. Non, ben, je vais lire ce qui est écrit comme ça, parce que sinon, ça va vous perturber. « Souviens-toi de ces choses, ô Jacob. » J'ai dit Ésaïe 44, verset 21. « Ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur, Israël, je ne t'oublierai pas. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. » Lorsque l'on vient sincèrement au trône de la grâce, en disant « Seigneur, je te demande pardon. » Ne cherchez pas des excuses en mettant ça sur le dos d'un tel ou d'un autre. Prenons nos responsabilités. Ne mettons pas ça sur une histoire ou quelconque. C'est moi qui ai péché. Même si je ne suis pas le seul, même si j'étais encouragé, motivé pour pécher, parce qu'un tel et un tel m'a dit ci ou m'a dit ça. Vous savez, le péché, il y a différentes variantes de péché. Hein. La colère, la haine, la vengeance, la jalousie, porter envie à d'autres personnes, ce sont des choses qui ne se voient pas et qui sont vécues et qui attristent aussi le Saint-Esprit. Et vous pourriez en rajouter d'autres. Et Jésus, donc, eh bien, purifie les lépreux. Il y a les sourds. Les sourds. Ah, c'est pareil. Dieu, combien de fois Dieu veut parler à notre cœur? Et parfois, on se trouve des excuses en disant, oh, je pense que c'était pour l'autre. Ah, tiens, si mon mari, il était venu. Eh bien, il aura entendu, mais vous savez que le Seigneur, il ne se trompe pas, hein. Il ne va pas donner un don spirituel, une prédication pour votre mari qui n'est pas là. Ah, si ma femme était là, elle l'aurait entendu. Paf! Mais ce n'était pas pour votre femme non plus, peut-être que c'était pour vous. Et c'est mon fils, et c'est ma fille. Et ma belle-mère. Oh, oh. Si ma belle-mère était là, tiens, je suis sûr que c'était pour elle, ça. Vous savez que parfois on raisonne, mais tellement, excusez-moi, bêtement. J'ai appris il n'y a pas longtemps, figurez-vous, qu'il y a des gens qui sont capables de croire. Vous savez que nous sommes passés par la période des gilets jaunes. Qui ne connaît pas les gilets jaunes, hein? Eh bien, j'ai entendu, c'est pour vous montrer un peu la stupidité, que le Covid aurait été provoqué pour arrêter les gilets jaunes. Ça vous fait sourire, hein? Alors, comme dirait un pasteur qui est décédé, il s'appelait Charles Gisquet, je ne sais pas s'il faut en rire ou s'il faut en pleurer. La stupidité. De croire des choses aussi grosses que ça. Il paraît que pour qu'un mensonge passe, il faut qu'il soit gros. Un gros mensonge, il paraît que ça passe. Enfin, ce n'est pas une invitation à mentir. Hein. Et là aussi, eh bien, Jésus dit, les sourds entendent. Et puis la dernière chose, l'avant-dernière chose, les morts ressuscitent. Et là aussi, je crois qu'on peut venir à l'église et on est mort. Une fois, il y a un brave frère, avant qu'il soit converti, avant qu'il s'engage dans les eaux du baptême, m'a dit, j'étais dans l'eau, il m'a dit, je suis un chrétien perdu. C'est la première fois que j'entendais ça. Il n'était pas engagé avec le Seigneur, il connaissait à peine Dieu, mais il m'a dit, je suis un chrétien perdu. Et après, il a rencontré le Seigneur, il s'est engagé avec le Seigneur. Mais combien de gens sont morts? Combien de gens nous croisons dans les rues qui sont morts? Mais vous, êtes-vous morts? Frère, ce matin, si j'avais su, je ne serais pas venu. Mais c'est important de le dire. Surtout qu'il y a un message d'espoir à chaque fois. Je crois qu'on peut être mort, spirituellement mort. Attendre peut-être le dimanche matin que le pasteur nous lise la Bible, parce qu'on ne lit plus la Bible, parce qu'on ne prie plus le Seigneur. Un jour, il y avait un brave, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais un monsieur qui était devenu pasteur, mais qui avant d'être pasteur, c'était un ancien, et puis il était devenu pasteur. Alors je ne sais plus dans quel mouvement, et je serais tenté de dire, heureusement que ce n'était pas dans les ADD, même si les ADD ne sont pas parfaits. Voilà. Ce brave disait en quelques mots, et d'ailleurs je n'ai pas compris pourquoi il avait été dire une chose pareille, moi je me serais tué, ce n'est pas possible. Il disait que avant, il n'ouvrait la Bible que pour prêcher. Donc, quand il était ancien, quand il devait préparer un message, il ouvrait la Bible là. Enfin, moi j'ai compris comme ça. C'est-à-dire que, mais alors jamais tu ouvres la Bible, jamais tu lis la Bible. Alors les chrétiens le faisaient, à la limite les chrétiens ils auraient pu l'instruire, quoi. C'est dommage. Combien d'années de passer à côté ou alors que le Seigneur voulait toquer à son cœur, voulait parler à son cœur. Et puis, il est donc dit que donc les morts ressuscitent. Et vous le savez aussi bien que moi, quand on est mort. Il n'y a que celui qui a créé la vie qui peut rendre la vie aux morts. Et pour terminer, il est question ici, eh bien, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Parfois, je crois aussi qu'on peut être des chrétiens qui nous considérons comme étant pauvres. Oh frère, moi, j'ose pas prier, vous savez, je ne sais pas parler. Quand j'entends un tel, ça me gêne parce que j'ai l'impression d'avoir honte, quoi. Je ne sais pas mettre un mot devant l'autre. Et souvent, les gens, quand ils me disent ça, eh ben, enfin, je veux dire, moi, je vois rien de particulier chez eux qui pourrait les empêcher de prier. Hein. Au contraire, ils s'expriment bien, mais ils sont tellement dans l'idée d'être nuls, de ne pas y arriver, eh ben, ils sont convaincus qu'ils ne sont pas capables de prier. Mais on n'est pas en train de faire un concours de prière. Est-ce que vous m'avez déjà vu donner des notes à ceux qui priaient? Non? Et puis vous savez, je te loue de ce que je suis, pas comme le reste. Je donne ma dîme sur toute chose, je jeûne deux fois la semaine. Il y en a un qui priait comme ça. Et que dit Dieu en quelques mots? Il y en avait un, il n'osait même pas lever les yeux au ciel, le pauvre. Sois apaisé envers moi, en parlant à Dieu. Et bien celui-ci était justifié, que l'autre, je te loue de ce que je ne suis pas comme les autres. Moi, je suis sur mon piédestal, Seigneur, tu m'écoutes, moi. Mais lui, il n'est pas parti justifié. Alors arrêtez d'être... d'avoir cette frustration, pas cette frustration, j'ai mangé le mot, je cherche mon mot. Ce complexe d'infériorité, merci. Ce complexe. Je suis sûr qu'il y en a qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, pourquoi? Parce qu'ils se disent comme ça, mais moi je ne mérite pas. Mais personne ne mérite. Est-ce que vous croyez que moi qui prêche, je mérite quoi que ce soit? Vous irez trouver ma femme. Non, n'allez pas lui dire, parce que elle va vous faire des révélations. Est-ce que vous croyez qu'il y en a un parmi nous qui méritions quelque chose de la part de Dieu? Rien. Alors vous voyez, c'est ma conclusion. Jésus dit, qui êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète, c'est celui, car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Jean-Baptiste, il savait plus où il en était, le pauvre vieux. Est-ce que c'est celui qu'on doit attendre ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? Il était au fond du trou. Allez, rapportez ce que vous voyez, ce que vous entendez. Et à chaque fois que tous les points négatifs, ils ont été relevés, ils sont devenus positifs. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les morts ressuscitent, les sourds entendent. Alors ce matin, repartez de ce lieu. Si vous êtes retrouvé dans une de ces pathologies-là, croyez que le Seigneur va vous visiter ce matin. Que Jésus, au contraire, au lieu de dire « Ouais, mais enfin, c'est un prophète, mais enfin bon... » Êtes-vous allé voir qui? Êtes-vous allé voir dans le désert? Un prophète? Oui, je vous dis. Un prophète. Et en même temps, il dit « C'est celui qui a annoncé, voilà, je te l'envoie pour préparer ton chemin. » Jésus confirme les choses. Dieu connaît vos failles, vos faiblesses, vos manquements. Ce sont les hommes qui vont vous dire « Oh, toi, paf! Prends ça sur la tête !» Les gens chercheront à vous casser, à vous mutiler, à vous faire taire. Ça ne veut pas dire qu'il faille se laisser aller à faire n'importe quoi en disant sous le prétexte de la grâce pardonne, la grâce ceci, la grâce... Non, oui, d'accord, oui, la grâce pardonne. Oui. Enfin, ce n'est pas la grâce, c'est Christ qui pardonne, qui a payé pour nous. Et nous sommes sous sa grâce. Mais ce message était pour tous ceux qui sont complètement anéantis, quelle que soit leur pathologie. Levez les yeux. D'où me viendra le secours? Il vient de l'Éternel. On va prier, vous voulez bien ?